Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors quel bilan peut-on dresser de la commission Juncker? Comment restera-t-elle dans l'histoire, une grande ou une petite commission? Voilà les questions sur lesquelles vous vous penchez.
On ne peut juger cette commission actuellement sur le départ que par rapport aux intentions et aux objectifs énoncés par son président lors de sa prise de fonction en 2014. Le luxembourgeois Jean-Claude Juncker apparaissait alors très désireux de se distinguer de son prédécesseur, le portugais José Manuel Barroso. Barroso était considéré comme un technocrate, déférent envers les chefs de gouvernement des États membres, dirigeant une commission politiquement faible et peu transparente. Sitôt installé au bâtiment Berlaymont à Bruxelles, le siège de la Commission européenne, Juncker lui annonça un principe et de nouvelles méthodes de travail. Le principe, being big on big things, small on small things. Les gens en ont assez de nous voir réglementer la taille et la puissance des ampoules électriques, tandis que l'Europe semble absente des grands défis, comme celui du numérique ou du chômage. La méthode de travail, il la qualifia de top-down. Il s'agissait de rendre le pouvoir aux commissaires européens sur les hauts fonctionnaires, qui sont théoriquement à leur service, les fameuses directions générales de la Commission. En outre, Juncker innova en regroupant les départements en équipes de projet sous l'égide des vice-présidents qui disposent ainsi d'une sorte d'autorité déléguée. Et il créa aussi le poste de premier vice-président qui était attribué donc à un travailliste néerlandais, Frans Timmermans. L'objectif était de piloter une commission plus politique que technique, plus transparente aussi, en étroite collaboration et sous le contrôle démocratique du Parlement européen. Mais ces intentions ont été en partie dérangées par le cours des événements. Durant la présidence Juncker, ce n'est pas la Commission qui a pris les initiatives politiques les plus décisives, mais bien le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. C'est parce que, face aux crises, à l'événement, à l'imprévu, bref, au retour de l'histoire, il faut agir avec le plein accord des gouvernements nationaux. Mais Juncker n'était pas tenu à l'écart des débats en leur sein, puisque en tant que président de la Commission, il est membre de droit du Conseil européen et il a participé à animer ces débats. En Allemagne et dans certains autres pays du nord de l'Europe, cela lui a valu des critiques. La Commission Juncker, aspirant à devenir politique, je l'ai dit, on y a estimé qu'elle avait créé du désordre. On l'a aussi accusée d'avoir été trop complaisante envers la France en acceptant de sa part des entorses aux règles budgétaires qui étaient refusées à d'autres.
Quel a été, Brice, le plus grave échec de la commission présidée par Jean-Claude Juncker?
Sans hésitation, je vous répondrai, c'est la gestion de la crise des migrants en 2015. L'idée de quotas de migrants par État membre ayant été refusée en réalité par un très grand nombre de pays, pas seulement à l'Est mais aussi au Sud, Juncker y a épuisé une partie de son capital d'autorité. Selon les termes employés par cet écrivain néerlandais que je citais hier encore, Luc van Middelaar, l'idée de Juncker était celle d'une irrigation. Mais ce qu'il a emporté, ce fut celle du barrage. Et il raconte fort bien, van Middelaar, comment l'UE, d'abord impuissante, a fini par réagir énergiquement. Et Jean-Claude Juncker y a joué, dans cette affaire, un rôle déterminant. C'est lui qui, par une lettre du 25 janvier 2016 au Premier ministre slovène, annonce que les États membres et les autres, comme la Macédoine, peuvent dorénavant fermer leurs frontières aux migrants. Le verrouillage des frontières de l'UE a eu lieu à partir de ce moment-là dans les Balkans occidentaux et l'Union européenne ayant fait la preuve de sa détermination à bloquer des flux qui allaient s'amplifiant en direction de la Grèce, elle a pu obtenir enfin de la Turquie une négociation sérieuse sur le blocage des départs. C'est toujours sous le coup des événements que l'Union européenne progresse. On le voit bien dans le domaine de la défense. Les tweets menaçants de Donald Trump envers des Européens qui se considèrent trop aisément comme des protégés des États-Unis sans assumer leur part du fardeau commun inquiètent les dirigeants européens. L'attaque de la Russie contre notre voisine, l'Ukraine, la fréquence des cyberattaques contre des intérêts européens, le terrorisme aussi, ont sonné l'alarme dans l'Union. On parle à présent d'autonomie stratégique européenne. Un fonds européen de la défense vient d'être créé. Il sera doté d'un budget conséquent, puisque c'est quand même 13 milliards d'euros sur la période 2020-2027. Mais pour autant, Les incantations rituelles en faveur de la création d'une armée européenne demeurent vides de sens. Français et Allemands qui s'y réfèrent dans leurs discours n'entendent pas la même chose sous ce slogan. Pour Berlin, c'est une façon de manifester la volonté allemande d'intégration européenne. Vu de Paris, une manière d'affirmer que les Européens sont prêts à assumer la défense des intérêts spécifiques en toute indépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais cette position, celle de la France, demeure isolée en Europe. Car plus on se rapproche de la frontière orientale de l'Union, plus on continue à muser sur la garantie de la sécurité américaine, en espérant que Donald Trump ne soit peut-être pas réélu en 2020.